Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h47, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Paul Garot, député européen, candidat Rassemblement National au Régional en Occitanie.
Bonjour Jean-Paul Garot.
Bonjour.
Dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est la nouvelle campagne de communication pour appeler à la vigilance face au Covid. C'est un bon message, c'est un bon slogan ou pas ?
Écoutez, c'est un nouveau message, un nouveau slogan, un revirement nouveau. Enfin, tous les jours, il y a du nouveau. Et donc, tout ceci, bien sûr, rend les Français dans des situations complètement particulières. Ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Donc, c'est, si vous voulez, au-delà des messages, ce qui compte d'abord et avant tout, ce sont, bien sûr, la gestion de cette maladie, puisqu'il ne s'agit pas véritablement d'une épidémie, mais d'une maladie. Je ne veux pas rentrer sur le terrain médical, ce n'est pas mon domaine, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, les Français ne s'y retrouvent plus. Ils n'ont plus confiance dans le gouvernement depuis longtemps. Et le nouveau revirement qu'il y a eu par rapport à la vaccination, notamment.
Alors, avec les vaccinodromes.
Bien sûr. Mais c'est quand même incroyable ce qui s'est passé là aussi. Ça me rappelle malheureusement d'autres moments, hein, sur les masques. Au début, on nous disait que ça ne servait à rien. Puis ensuite, il fallait absolument des masques sous peine de contravention. Maintenant, on nous a dit au début, non, les vaccinodromes, c'est pas possible. Là, en manque cruel de vaccins pour les Européens, et les Français en particulier, eh bien, on exporte des millions de doses je crois qu'il y a encore, à peu près il y a 8 jours, on était à 31 millions de doses exportées.
Écoutez, c'est incroyable. Il y a de l'importation, exportation.
Les Américains, ils fabriquent du vaccin aux États-Unis. Le démocrate Joe Biden, il garde les vaccins pour les Américains. Nous, les Européens, eh bien, on a un manque cruel de vaccins, parce qu'en réalité, ce qui va régler, ce problème considérable, évidemment, d'épidémie, c'est le vaccin. Eh bien, on l'exporte. On ne le garde pas pour les Européens. Si vous voulez,
c'est du commerce. Donc, il y a eu la vente. Et puis, AstraZeneca, c'est pas une entreprise française. Un point essentiel,
si vous voulez, c'est que nous avons délégué à la Commission européenne la question de la santé des Européens et surtout des Français. Alors que la santé n'est pas du domaine de l'Union européenne, de la Commission européenne. La santé est un domaine réservé aux pays nationaux, à la France. Pourquoi a-t-on délégué ce secteur si important à l'Union européenne ?
L'explication officielle, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit la foire d'empoigne entre les pays européens et qu'ensuite on se répartisse les vaccins.
Écoutez, quand on est face à un danger de mort comme celui-là, il était évident que le pays, nos responsables politiques, auraient dû bien sûr s'occuper eux-mêmes de cette question.
Oui, est-ce qu'il faut se tourner vers Spoutnik ? Parce que Thierry Breton, le commissaire européen, a dit que ce n'était pas utile pour l'instant, même s'il y a des discussions en cours, ou alors même vers le chinois.
Écoutez, encore une fois, je ne suis pas médecin, je me garde bien d'aller dans ce débat médical où on dit tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'à partir du moment où ce vaccin sera agréé, bien entendu, on pourra le diffuser, encore une fois. Mais je vous dis, pourquoi on fait partir des vaccins alors qu'on en a à disposition,
Un mot aussi sur la stratégie autour du confinement qui n'est pas un confinement. Est-ce que ce sont quand même globalement des bonnes mesures qui ont été prises, c'est-à-dire d'essayer d'inviter les Français à ne pas trop sortir sans paralyser totalement l'économie.
Non, mais le gouvernement qui est toujours en retard sur l'événement, si vous voulez, on n'a jamais un coup d'avance, on a toujours un coup de retard. Donc évidemment, la situation se dégrade, forcément. Donc on part ensuite à une situation qui finalement est dégradée. Donc je veux dire, il n'y a pas d'anticipation. Donc ce qui se passe finalement, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de solutions globales et anticipées par rapport à cette situation. Donc ça ne sert à rien tout ceci. Alors le confinement, si vous voulez, les gens, la population, elle va craquer. À un moment donné, elle n'y arrive plus. On voit à Marseille ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas cette anticipation depuis le début de cette crise. On a pris, au début de cette crise, le critère, c'était d'éviter que les services de réanimation soient saturés. Bon, c'est un critère. Moi, on a vu ça par le petit bout de la lorgnette. Il aurait mieux valu commencer en se disant, il faut protéger les Français. Et pour protéger la santé des Français, il fallait naturellement fermer les frontières, il fallait naturellement simplement faire des tests, je dirais des autotests, beaucoup de... isoler les gens qui sont positifs, une fois qu'ils sont isolés, les traiter, les traiter antiviraux, antibiotiques, voilà. Et on peut maintenant, vous le savez, on arrive bien sûr à cibler les foyers d'infection, on y arrive avant que ça éclate. L'analyse des eaux usées, par exemple. Bon, eh bien, tout ceci aurait dû être mis en place, évidemment, au tout début. Or, le politique n'est pas allé au bout de ce qu'il devait faire. Pourquoi ? Parce que nos politiques, actuellement, n'ont plus ce sens de la responsabilité.
Quand on regarde chez nos voisins européens, c'est pas forcément mieux. Souvent on se compare avec l'Allemagne, vous avez vu, ils ont reconfiné, avec les Italiens ils ont reconfiné donc c'est pas beaucoup mieux.
Cette gestion européenne ne touche pas que la France. Cette gestion européenne de cette épidémie, évidemment, touche tous les pays européens. Bon. Vous savez, il y a un dogme, c'est la libre circulation des personnes, des biens, cette mondialisation à outrance, cette vue européiste béate que nous dénonçons depuis le début. Nous avons raison depuis le début. C'est très, très, très regrettable qu'on ne nous écoute pas et qu'on cherche surtout à nous diaboliser. C'est toujours pareil.
Alors, Jean-Paul Garot, vous étiez député UMP, vous avez rejoint Marine Le Pen, le Rassemblement National, vous êtes candidat donc au régional en Occitanie. D'ailleurs, pourquoi, au passage, vous êtes de Gironde, pourquoi vous êtes allé en Occitanie? Vous êtes un parachuté, c'est ce que dit l'un de vos adversaires, Aurélien Pradier.
Sûr. Là aussi, c'est facile. Oui. La famille Garot, ça remonte dans les années 1370 à Toulouse, où il y avait des capitouls, vous voyez. Je suis parti, évidemment, parce que j'étais magistrat, donc j'ai eu plusieurs affectations, j'ai quand même été juge d'instruction à Toulouse. Ouais. Je suis né à Toulouse, ma femme est née à Toulouse, mes enfants sont nés à Toulouse. Je suis originaire donc de la Haute-Garonne, du Tarn, de l'Ariège et de l'Aveyron. Bon, à part ça,
qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur une chaîne de télévision régionale avec Aurélien Pradier où ça a été plus que tendu, quoi.
Hein. Écoutez, c'est un épisode.
Il y a eu des noms d'oiseaux qui ont volé, quoi.
C'est un épiphénomène que ce monsieur veut mettre en exergue parce qu'il veut exister.
Visionner
ce qui s'est passé pendant le débat. Je suis d'un calme olympien, je m'étonne même, puisque effectivement on m'a coupé la parole systématiquement pour que je ne puisse pas m'exprimer. Le but était justement de m'énerver. Bon, cette émission a été enregistrée le vendredi. Si ce monsieur avait été victime d'une agression telle qu'il l'a décrit, à ce moment-là, pourquoi n'a-t-il pas porter plainte. Là, le vendredi, non, il a attendu la diffusion de l'émission le dimanche pour balancer un twist parlant d'agression physique. Je n'ai agressé personne, il n'y a eu aucun contact physique. Simplement, j'ai dit à ce monsieur, à la fin, après, évidemment, le débat, ce que je pensais de lui, c'est-à-dire degré zéro de la politique. C'était peut-être un peu, viril, mais correct, comme le disait Spanghero. Voilà, il n'y a rien.
Mais vous avez vraiment failli en venir aux mains ?
Mais bien sûr que non.
Je ne sais pas.
Alors, si vous voulez, il indique qu'il y aurait eu les services de sécurité qui seraient intervenus. Ah bon, mais moi j'ai vu que la maquilleuse, alors peut-être qu'elle faisait partie de la sécurité, c'est possible. Mais enfin, personne ne nous a séparés. Si vous voulez, ce monsieur veut absolument exister. C'est dommage, parce que moi j'y allais pour parler de l'avenir de la droite, vous voulez. La droite, la gauche, c'est fini. Ce sont des partis moribonds. Ils veulent exister, ils se croient encore des partis de gouvernement. Non, le débat n'est pas à ce niveau-là. Et moi, je voulais simplement faire comprendre...
Il y a la gauche avec Carole Delga qui existe,
les socialistes, évidemment, c'est Hollande, etc. Enfin bon. Oui. Mais je voulais simplement faire comprendre aux gens que maintenant, il faut se retrouver, se réunir, puisque... Non, mais simplement, en Occitanie comme ailleurs, ce que nous représentons, les idées que nous portons, sont majoritaires. Donc, elles sont majoritaires.
C'est-à-dire ?
Donc, demain, très simplement, quand on analyse les résultats électoraux de toutes les dernières élections, il y a une montée de ce que nous disons, des idées fondamentales, de ce souverainisme, de ce localisme, de l'environnement, de la protection, etc., ce qu'on a. Eh bien, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre entre gens intelligents ? Je ne suis pas tombé sur quelqu'un d'intelligent.
Oui, Marine Le Pen a lancé hier l'Avenir français. C'est un nouveau parti allié qui accueille notamment des ex de Debout la France qui ont quitté Dupont-Aignan. Est-ce que vous souhaitez accueillir comme ça d'autres personnalités venant des rangs de la droite classique et notamment par exemple de vos anciens amis de l'UMP ?
Mais bien sûr.
Aujourd'hui des LR.
Je suis en relation souvent avec eux.
Oui.
Tout le monde me dit en privé que j'ai raison.
C'est-à-dire ?
Voilà, que j'ai raison. mais qu'ils n'osent pas.
Alors pourquoi ils le disent en privé et pas en public ?
Parce qu'ils n'osent pas, parce que si vous voulez, il manque un peu de courage, voilà, à la classe politique. Moi, je suis là où je suis, en étant resté le même, vous voyez ? Ce sont exactement les mêmes convictions que j'ai. Quand j'ai commencé, bon, d'abord, j'ai fait une carrière professionnelle, hein, je suis magistrat, hein, je ne suis pas un politique. Hein. Mais ensuite, quand j'ai décidé de faire la politique, ben, je suis resté toujours avec ces mêmes convictions. Ouais. Cette fibre un peu RPR, Pasqua,
Seguin... Oui, pourquoi
Seguin,
vous n'êtes pas resté à LR,
mais
LR,
parce que le LR n'est plus du tout le LR que j'ai connu. Si vous voulez, il y a eu une évolution terrible, on l'a vu. Bon, on l'a vu. Moi, j'ai beaucoup soutenu Nicolas Sarkozy et puis François Fillon. Mais on a vu qu'on n'a pas rempli les promesses qui avaient été faites donc à nos concitoyens. Donc j'ai créé la droite populaire avec Thierry Mariani pour que, à l'époque en 2010, pour pousser en quelque sorte notre majorité à aller au bout des promesses électorales de 2007. Bon, on n'y est malheureusement pas arrivé. Donc maintenant, je peux vous assurer que je suis heureux, bien sûr, de contribuer directement à politiquement et puis sur le fond, parce qu'on travaille beaucoup sur le fond, moi en particulier sur les questions régaliennes, naturellement, et j'invite tous les gens sincères à nous rejoindre.
Alors,
je ne demande pas ce qu'on a...
Est-ce qu'ils vont rentrer ? Ils frappent à la porte, mais est-ce qu'ils vont rentrer ? C'est LR. Est-ce que vous pensez que d'ici un an, d'ici cette campagne...
Écoutez, déjà, je peux vous dire...
Est-ce que vous avez quelques noms à nous donner ?
Déjà, je peux vous dire que sur les listes que je compose, que je suis en train de composer, il y a des gens, bien entendu, qui viennent des LR et d'autres horizons. Ce sont des gens qui, d'abord et avant tout, mettent de côté, finalement, leur appartenance politique. Il y en a plein aussi qui n'ont pas d'appartenance politique particulière et qui me rejoignent, qui viennent d'horizons, et pas que de la droite.
Bon, pas de nom.
Vous comprenez que je ne peux pas vous donner là maintenant des noms, mais vous le verrez bientôt.
Et quand
vous m'inviterez
public,
au moment où je vous donnerai tous les noms.
Dernière question avec Cécile Ménibus, Jean-Paul Garraud.
Oui. Oui, vous l'avez dit, vous êtes un ancien magistrat. Marine Le Pen l'a répété, si elle arrivait au pouvoir, vous serez son ministre de la Justice. Et justement, l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, n'arrête pas de fustiger justement Marine Le Pen en la traitant de menteuse, d'incompétente. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
c'est de la haine, en fait. C'est de la diabolisation et il n'y a rien sur le fond. Voilà. Moi, il est certain que si cet honneur m'est fait, là, je pense plutôt que je ne serai pas applaudi par les prisonniers lors de ma première sortie, ça c'est sûr. Je pense aussi que je renforcerai bien sûr l'institution naturellement et je pense aussi que je ferai en sorte que les enquêtes soit efficace, tout en bien entendu, donc en ménageant les droits à la défense. Ça va de soi. Monsieur Dupond-Moretti n'arrive pas à se débarrasser de sa robe d'avocat pénaliste. Il a toujours été en opposition avec la magistrature dans les cours d'assises, et en particulier par rapport aux avocats généraux, par rapport aux procureurs. Donc il est en train actuellement de régler des comptes, si vous voulez, quelque part.
Bon, c'est un peu adouci, non ?
Mais regardez, enfin, moi, je veux dire, Monsieur Dupond-Moretti actuellement fait l'objet, alors c'est, bien sûr, je respecte la présomption d'innocence, mais d'une enquête par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans ses fonctions d'avocat. Et chose unique dans l'histoire de la République, eh bien, le Premier ministre a été dans l'obligation de prendre un décret pour enlever, je dirais, une partie des compétences au ministre de la Justice pour se les attribuer à lui, Premier ministre, pour qu'on ne continue pas dans ce risque de conflit d'intérêts.
Oui, mais ça continue.
Si vous voulez, ça montre quelque part...
L'enquête est...
Oui, mais je ne dis pas, je ne sais pas, c'est une enquête, présomption d'innocence, etc. Ouais. Mais ne serait-ce que cela, et quand même, montre bien que M. Dupond-Moretti n'arrive pas, finalement, à se débarrasser de cela. Il a présenté récemment une réforme de la justice, dont on n'a pas le texte.
Mais ça veut dire que c'est un mauvais ministre de la Justice.
En tout cas, c'est un ministre de la Justice qui ne va pas dans le sens, évidemment, qu'il faudrait, notamment pénal, qui donne l'impression de travailler avec le ministre de l'Intérieur en parfaite entente, mais les conceptions sont évidemment radicalement différentes. Donc, si vous voulez, au niveau de la pensée idéologique de M. Dupond-Moretti, c'est celle des années 80 du socialisme triomphant.
Allez, donc, merci. Si vous voulez, merci Jean-Paul Garraud, député européen, candidat RN au régional en Occitanie. Je pense que vous souhaitez débattre avec Dupond-Moretti.
Oui.
Ça viendra peut-être.
J'attends impatiemment cela, mais je ne sais pas si ça vient pas, je ne sais pas pourquoi.
Allez, merci. Nous sommes en retard. Le journal de 8h dans un instant.
À tout de suite.